Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins, on est ensemble jusqu'à 11h. Cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans Geneviève Méric, Ivy Paolo-Antonacci, Marianne Chassor, Tristan Grenassian et Géraldine Mosna-Savoie. Elle est mise en musique cette semaine par Philippe Baudouin à la réalisation, avec aujourd'hui à la prise de son, Florent Hanoun. À 10h50, vous retrouverez comme tous les jours François Nudelman pour le journal de la philosophie. François qui recevra aujourd'hui Belinda Cannon pour La chair du temps, paru aux éditions Stock. Suite aujourd'hui de notre semaine consacrée au philosophe Ludwig Wittgenstein, l'explorateur du langage qui se détourne de la pureté de cristal pour mieux continuer à marcher en quête de frottement et de sol raboteux. Hier mardi, Jérôme Sacure et Sébastien Gandon nous ont montré comment le premier livre de Wittgenstein, intitulé Tractatus Logico-Philosophicus, était l'occasion pour le philosophe de tester la logique à l'œuvre dans le langage, d'en délimiter les bornes pour mieux désigner ce que le langage peut dire et ce qu'il ne peut pas dire. Tracer la frontière entre le dicible et l'ineffable. Mais tenir en main la carte du territoire propre au langage, en connaître les contours, ne permet pas d'en saisir le relief, les aspérités, la minéralité friable du langage, qui est d'abord et avant tout une activité, ancrée dans des usages particuliers, des habitudes, des formes de vie. C'est en voulant reconduire les mots de leur usage métaphysique à leur usage quotidien que Wittgenstein écrit, 16 années durant, les sédiments de ses recherches philosophiques, présentés sous forme de remarques qui progressent d'un objet à l'autre, dans une suite naturelle et sans lacune. Dans ses recherches philosophiques, les mots ne partagent pas une essence commune, mais un air de famille. Un problème philosophique n'est pas formulé par la question « pourquoi ?», mais par le constat « je ne m'y retrouve pas ». Le canard devient paradigme, le lion se met à parler, mais personne ne le comprend, et la douleur d'une rage de dents est l'occasion de vérifier que le langage privé n'existe pas. J'aurais volontiers produit un bon livre, écrit le philosophe dans sa préface, mais le sort en a décidé autrement, et le temps est révolu qui m'aurait permis de l'améliorer. N'en déplaise au coup du sort, nous avons 50 minutes aujourd'hui pour donner à entendre ce texte, les recherches philosophiques, avec pour guide, avec nous, en studio, le philosophe Vincent Descombes.
Quand les adultes nommaient une certaine chose et qu'ils se tournaient grâce au son articulé vers elle, je le percevais et je comprenais qu'à cette chose correspondaient les sons qu'ils faisaient entendre quand ils voulaient la montrer. Leur volonté m'était révélée par les gestes du corps, par ce langage naturel à tous les peuples, que traduisent l'expression du visage, le jeu du regard, les mouvements des membres et le son de la voix, et qui manifestent les affections de l'âme lorsqu'elle désire, possède, rejette ou fuit quelque chose. C'est ainsi qu'en entendant les mots prononcés à leur place dans différentes phrases, j'ai peu à peu appris à comprendre de quelle chose ils étaient les signes. Puis, une fois ma bouche habituée à former ces signes, je me suis servi d'eux pour exprimer mes propres volontés.
Augustin nous donne là une certaine image de l'essence du langage humain, qui est la suivante. Les mots du langage dénomment des objets. Les phrases sont des combinaisons de telles dénominations. C'est dans cette image du langage que se trouve la source de l'idée que chaque mot a une signification. Cette signification est corrélée au mot, elle est l'objet dont le mot tient lieu. Imaginons un langage pour lequel vaut la description donnée par saint Augustin. Ce langage doit servir à un constructeur A pour se faire comprendre de son aide, B. A réalise une construction avec des pierres à bâtir. Il y a des blocs, des colonnes, des dalles et des poutres que B doit faire passer à A dans l'ordre où celui-ci les utilise. À cet effet, ils se servent d'un langage constitué des mots bloc, colonne, dalle, poutre. A crie leur nom, B apporte la pierre qu'il a appris à apporter en réponse à ce cri. Conçoit cela comme un langage primitif complet.
Thank you.
Bonjour Vincent Descombes.
Bonjour.
C'est donc avec vous que nous allons parler des recherches philosophiques qu'on a donné à entendre en tout début d'émission, un texte de Saint-Augustin que cite Wittgenstein, qui ouvre le texte des recherches philosophiques dans lequel il y a, selon Wittgenstein, la présentation le paradigme d'une conception erronée du langage qui pense qu'on apprend à parler parce qu'on nous montre à quel objet correspond chaque mot. Et c'est contre cette conception du langage que se positionne Wittgenstein et que les recherches philosophiques visent à montrer en quoi justement le langage n'est pas simplement ce jeu de renvoi entre un mot et une réalité qu'il désigne.
Oui, le début des recherches surprend toujours, et la suite également, parce que Wittgenstein ne procède pas comme ferait... Comme font d'habitude les philosophes contemporains. Alors là, il commence par cette citation d'Augustin, en latin d'ailleurs, dans le texte, et les gens disent « mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi Augustin ? Comment est-ce qu'un livre va commencer par ce passage des confessions ?» Alors, s'agit-il de critiquer la conception du langage de Saint-Augustin ? Si c'était ça, n'est-ce pas, on aurait... un philosophe, Wittgenstein, opposant sa propre philosophie du langage à celle d'Augustin. Et là, les gens qui connaissent bien Augustin seraient fondés à protester, n'est-ce pas, dire « mais Augustin, c'est pas juste ce passage ». Il y a toute une théorie du langage et de la grammaire dans le De Magistro, tout ça. Donc, Wittgenstein, que fait-il exactement ? Alors, je crois qu'il faut souligner deux choses là, dans ce texte. C'est certainement du langage qu'il est question, mais de l'apprentissage du langage. Et c'est très important que l'ouvrage commence par la question le langage étant ce qu'il est, comment l'apprend-on ? Comment l'a-t-on appris ? Et puis, Augustin n'est pas là choisi comme un interlocuteur. Ce dont il est question, c'est de l'image dont cette page d'Augustin est particulièrement expressive, de l'image du langage, qui se retrouve chez toutes sortes d'autres philosophes, dont Wittgenstein lui-même dans le Tractatus. Donc c'est cette image qui est en cause, image séduisante, image puissante et surtout dangereuse, parce qu'inaperçue de nous, n'est-ce pas ? Il y a un ensemble d'évidences, de ça va de soi qui sont en place dès qu'on aborde le langage. Et c'est en somme cette image naturelle du langage à laquelle Augustin donne la parole, décrivant son apprentissage, en essayant de reconstituer son apprentissage dans une vision qui est tout à fait impossible.
Alors que s'est-il passé, Vincent Descombes, entre la rédaction du Tractatus qui véhicule justement cette conception-là du langage et à laquelle fait référence Wittgenstein dans le texte même des recherches philosophiques? À un moment, il dit c'est ce que les logiciens ont cru comprendre du langage, y compris l'auteur du Tractatus Logico-Philosophicus. Que s'est-il passé entre le moment de la rédaction de ce traité-là et ce qu'il écrit dans les recherches philosophiques pour que sa conception du langage évolue de telle manière?
Eh bien, je crois que... Si on doit le résumer en un mot, il a dépassé le Tractatus à partir du Tractatus. Ce qu'il conserve, le point essentiel qu'il conserve du Tractatus, c'est que pour parler du langage, il faut deux niveaux, le niveau des noms et le niveau de la proposition. Et ça, c'est donc un point fondamental du Tractatus. On n'a pas une philosophie du langage si on a juste une philosophie du mot. Et voilà l'image augustinienne du langage là, qui est en cause. Cette philosophie essaie de rendre compte du langage par l'apprentissage d'un mot, puis d'un autre mot, et d'un troisième mot, qui sont conçus comme des noms. Alors ça, c'est déjà acquis dans le Tractatus, n'est-ce pas ? Le langage, ça consiste à dire des choses, vraies ou fausses, et le nom, nommer un objet, ça n'est ni vrai ni faux. Il faut... Mais alors, dans le Tractatus, l'idée était que la proposition... en définitive, les phrases de tous les jours que nous fabriquons doivent être analysées ou devraient pouvoir l'être dans une analyse ultime en combinaison de noms qui désigneraient des objets. Et alors c'est ça qui saute entre le Tractatus et les recherches. Il s'introduit en somme l'idée une idée plus grammaticale du langage, dans la mesure où ce qui est reproché à la scène là, d'Augustin, c'est de traiter tous les mots du langage comme des noms, des noms d'objets, comme si on pouvait concevoir en quelque sorte, un apprentissage du langage comme étant une perpétuelle leçon de choses. Ça s'appelle comme ça, ça s'appelle comme ça. Et cet apprentissage, justement, n'est pas possible. Et ça n'est pas possible parce que les mots sont beaucoup plus variés que les noms. Et alors, c'est justement, vous avez cité le deuxième petit jeu qui apparaît dans la recherche avec les maçons qui réclament. Alors là, Wittgenstein, en somme, se dit, bon, ce que dit Augustin est-il concevable? Alors, essayons d'imaginer une vie sociale dans laquelle, une interaction sociale dans laquelle les gens auraient le langage d'Augustin. C'est-à-dire, leur langage, ça serait quatre substantifs. Et vous voyez que dans ce jeu de langage, les substantifs sont utilisés comme des phrases, n'est-ce pas ? Ce sont des mots d'une phrase.
C'est-à-dire un langage qui n'aurait pour constitution que les mots bloc, colonne, dalle, poutre.
Oui. Mais n'est-ce pas ? Quand le maçon dit dalle, ça veut dire donne-moi la dalle. Et donc, le langage est simplifié. Ça pose d'ailleurs un problème redoutable. Peut-on imaginer ? Parce que ce que dit le mot important dans ce que vous avez cité, c'est un langage primitif complet. Alors, cette histoire de complet, pourquoi complet ? Non, complet veut dire que nous devons imaginer ces maçons comme n'ayant d'autres vies sociales, d'autres vies humaines, d'autres activités que ce petit échange. Et donc, ça, c'est très difficile à concevoir une société qui se réduirait à cet usage, donc de quatre substantifs, pour des opérations élémentaires. Alors, qu'est-ce qui manque ? Eh bien, il manque les autres éléments avec lesquels on fabrique les phrases. C'est-à-dire, il manque de voir qu'il n'y a pas que les noms, il y a les verbes, il y a les articles, il y a la négation, et c'est tout ça le langage dont l'apprentissage imaginé par Augustin ne peut pas rendre compte. N'est-ce pas ? On ne peut pas apprendre la négation en pratiquant la forme imaginée par Augustin, n'est-ce pas ? On peut pas montrer la négation. Non, si on dit oui, donne-moi la dalle, non, pas celle-là, mais l'autre. Comment est-ce qu'on montre pas celle-là ? On ne peut pas apprendre le sens de pas cette dalle-là par le procédé d'Augustin. Il faut procéder autrement.
Ce que vous êtes en train de dire, Vincent Descombes, c'est l'importance que Wittgenstein soulève dans ses recherches philosophiques de la prise en compte de la grammaire du langage. Le langage n'est pas seulement un assemblage de règles logiques qui fonctionnent selon des règles définies qui sont, elles, purement logiques, mais également selon des règles de grammaire, c'est-à-dire d'assemblage de propositions qui ne font sens qu'au sein d'un ensemble plus large. Une proposition peut faire sens en tant que telle, mais elle s'inscrit toujours dans un contexte donné, dans un contexte d'autres propositions. Lorsque je dis « il fait 16 degrés », ce que j'entends, ce que je dis par là, ne prend un sens qu'à partir du moment où je sais qu'il ne fait pas 2 degrés, ni 17 degrés, ni 25 degrés. Donc, dans lequel la température, c'est particulièrement parlant, puisque ce n'est pas du tout la même chose qu'il fasse moins 2 degrés ou 25 degrés. Mais ce que cet exemple révèle, c'est que la façon dont Wittgenstein réfléchit sur le langage au sein des recherches philosophiques se distingue de ses réflexions sur le langage dans le Tractatus par justement cette prise en compte de la grammaire et du contexte dans lequel le langage s'énonce. Là, vous parlez du langage primitif. Les mots, des mots très simples peuvent exprimer la subtilité de l'expression de chacun, mais on peut même aller plus loin. Il faut prendre en compte les habitudes, les usages, ce que Wittgenstein nomme les formes de vie qui sont indispensables pour essayer de ressaisir le langage en tant que tel, qui ne se réduit pas donc à un exercice logique.
Tout à fait. En effet, le thème grammatical, c'est celui des règles, et il se développe dans les recherches, si on peut dire, selon deux dimensions. Alors, la première ligne de développement prend le mot grammaire en un sens, au sens où on faisait de la grammaire à l'école élémentaire autrefois. C'est celle que Wittgenstein a appris lui-même et à laquelle il fait allusion tout de suite après la citation d'Augustin en disant donc il manque déjà quelque chose dans cette image de l'apprentissage du langage comme suite de noms, ce sont les genres de mots, littéralement. Les genres de mots, dit-il en allemand. Et alors, on sait par ses élèves qu'il voulait le traduire en anglais « parts of speech », les parties de la phrase. Donc, n'est-ce pas, s'il y a le nom, il faut... Dans le langage que nous parlons, qui n'est pas le langage primitif des maçons, nous avons toutes sortes de parties grammaticales. Et il faut donc accorder tout ça. Donc, ça nous donne la grammaire au sens des règles de composition des phrases. Mais alors, ça ne suffit pas. Parce que ces phrases... Sinon, on va rester augustinien aussi. Et puis, les phrases, on va les interpréter comme étant toutes des propositions vraies ou fausses, donc des informations qu'on échange. Alors qu'il y a, justement, comme le montrait l'exemple des maçons, il y a des impératifs, il y a des optatifs, donc on n'est pas toujours en train de décrire les objets ou de donner une information. On fait toutes sortes d'emplois du langage, et ces emplois peuvent être expliqués à quelqu'un qui apprend à parler, parce que, justement... ils répondent à des règles d'emploi qui sont expliquées dans les contextes que vous avez évoqués. Donc, il faut effectivement, de façon générale, il faut un contexte anthropologique qu'il appelle forme de vie pour situer les mots nouveaux que l'enfant apprend lorsqu'il apprend le langage et sans lesquels, n'est-ce pas, le mot reste lettre morte pour lui.
Mais combien existe-t-il de catégories de phrases ? L'assertion, l'interrogation et l'ordre, peut-être. Il y en a d'innombrables. Il y a d'innombrables catégories d'emplois différents de ce que nous nommons signes, mots, phrases. Et cette diversité n'est rien de fixe, rien de donné, une fois pour toutes. Au contraire, de nouveaux types de langage, de nouveaux jeux de langage, pourrions-nous dire, voient le jour, tandis que d'autres vieillissent et tombent dans l'oubli. L'expression « jeu de langage » doit ici faire ressortir que parler un langage fait partie d'une activité ou d'une forme de vie. Représente-toi la diversité des jeux de langage à partir des exemples suivants, et d'autres encore. Donner des ordres et agir d'après des ordres. Décrire un objet en fonction de ce qu'on envoie ou à partir de mesures que l'on prend. Produire un objet d'après une description, un dessin. Rapporter un événement. Faire des conjectures au sujet d'un événement. Établir une hypothèse et l'examiner. Représenter par des tableaux et des diagrammes les résultats d'une expérience. Inventer une histoire et la lire. Faire du théâtre. Chanter des comptines. Résoudre des énigmes. Faire une plaisanterie. La raconter. Résoudre un problème d'arithmétique appliquée. Traduire d'une langue dans une autre. Solliciter, remercier, jurer, saluer, prier. Il est intéressant de comparer la diversité des outils du langage et de leur mode d'emploi. La diversité des catégories de mots et de phrases à ce que les logiciens, y compris l'auteur du Tractatus Logico-Philosophicus, ont dit de la structure du langage.
Ce soir, au bar de la gare, Igor Agar est noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était toc, dit Igor, qui s'endort, ivre mort, au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, l'effet tarpaillard du bar, car encore Igor, il dort, mais près de son oreille. Merveille, un réveil vermeil lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, tac-tac.
Vous écoutez France Culture, il est 10h19, vous êtes sur le nouveau chemin de la connaissance où nous parlons de Wittgenstein toute cette semaine et aujourd'hui des recherches philosophiques dans lesquelles le langage est écrit comme un jeu de mots doux, Bobby Lapointe et Takati Takité. Nous sommes en compagnie du philosophe Vincent Descombes, auteur notamment du complément de sujet qu'on trouve aux éditions Gallimard et le raisonnement de l'ours qu'on trouve au Seuil.
Contre ta cocotée, quatre équipes comptées, équipe de ton quartier, Takati Takité, Takati Takité. Takati takité, takati takité. Tout à côté des catins, des catita qui n'est un coquère coquin et des diques coquettes, tout en tricotant, caqueté, t'es discuté, t'es critiqué, un compte toqué, qui comptait tantiquant, tout un tas de tickets de quai, quand tout à coup tic-tac tic. Oh matin, quel réveil, matin, quel réveil, matin, s'écrie le russe blanc de peur pour une sonnerie. C'est une belle sonnerie.
Vincent Descombes, lorsque dans la proposition 23 des recherches philosophiques qui a été interprétée par Jean-Louis Jacopin, Wittgenstein écrit que l'expression « jeu de langage » doit faire ressortir que parler un langage fait partie d'une activité ou d'une forme de vie, donc s'inscrit dans une diversité de jeux de langage en tant que tel. Quelle différence entre ce qu'il entend par jeu de langage, donc ce qu'il il en fait une liste ensuite, rapporter un événement, faire du théâtre, chanter des comptines, et le jeu de mots, dont la chanson de Bobby Lapointe que l'on vient d'entendre nous a donné un exemple parfait. Comment distinguer le jeu de langage dont il parle du simple jeu de mots purement ludique?
Alors, effectivement, l'expression de jeu de langage peut mettre sur une fausse piste qui serait l'idée qu'on s'amuse. Néanmoins, là, vous avez bien fait de passer Bobby Lapointe avec c'est quoi, t'as quitté, parce que c'est un point de la philosophie, la philosophie d'ensemble de Wittgenstein du langage, qui est que on ne peut en aucune façon rendre compte du langage par des idées d'adaptation ou par des formes d'évolutionnisme. Le langage n'est pas un instrument dont on pourrait parler de l'extérieur, n'est-ce pas? Le langage n'a pas des finalités qu'on pourrait décrire en dehors du langage lui-même. Je veux dire par là que on peut pas imaginer des êtres anthropoïdes, pré-linguistiques, avant l'invention du langage, et travaillant ensemble, s'efforçant de se donner l'outil du langage dans des buts de survie, de bien-être, je ne sais pas, d'amélioration, dans des buts que l'on pourrait décrire en des termes qui ne feraient pas déjà appel à la possession du langage par les êtres humains. Dès qu'on veut dire à quoi sert le langage, on est dans le langage. Et donc, l'élément ludique nous rappelle donc qu'il y a une gratuité ou il y a quelque chose. Le langage, ça fait partie du langage, de la nature du langage, que de pouvoir jouer avec lui-même. Bon, alors, cela étant dit, les jeux de langage de Wittgenstein, ça n'est pas du tout jeu au sens de jouer sur les mots, c'est-à-dire c'est dans le cas de la pointe, là, il joue sur les sonorités. Pourquoi jeu ? Parce que Wittgenstein veut appliquer au langage l'idée que il veut les comparer à des activités dans lesquelles on entre à condition d'en avoir saisi les règles. Donc, l'idée de jeu lui permet d'introduire la notion d'un coup dans le jeu.
Dans le jeu, ce qu'il retient, ce n'est pas la dimension ludique, c'est la notion de règles, justement, et de stratégie que l'on peut mettre en œuvre pour avancer selon certaines règles.
Ah oui, de règles, mais pas de stratégie. Non. Stratégie, ça serait...
C'est vrai, dans stratégie, il y a encore la dimension.
Ça serait
ludique.
Des recettes. Mmh. Donc, Alors, très souvent, c'est les... Le jeu intervient de deux façons. Très souvent, il prend les échecs, parce que là, on a un exemple particulièrement clair d'une interaction qui est complètement incompréhensible si on enlève la notion de règles. Les règles, mais alors les règles, là, c'est pas les règles pour gagner une partie, c'est pas les combinaisons gagnantes, c'est pas comment faire son ouverture, c'est pas ça du tout. Ça serait justement des stratégies qui supposent que le jeu est déjà en place. Tandis que ce qui l'intéresse, c'est la différence entre, par exemple, c'est des exemples qu'il donne dans les remarques sur les fondements des mathématiques, c'est la différence qu'il y aurait entre des joueurs d'échecs, là, qui jouent aux échecs, et puis, par exemple, des singes qui les imiteraient. Donc, matériellement, on pourrait imaginer que les gestes sont les mêmes, mais pour dire que les uns jouent alors que les autres s'amusent à imiter... Sans vraiment jouer aux échecs, il faut introduire cette notion des règles qui définissent les coups, n'est-ce pas ? Le mouvement dans le jeu devient un coup dans le jeu parce qu'il y a une règle qui dit déplacer sa pièce de telle façon, c'est faire tel coup dans le jeu d'échecs. Alors, par ailleurs, tous les jeux ne sont pas des jeux d'échecs, tous les jeux ne sont pas... définis de la même façon. Et donc ça, c'est l'autre point important, c'est qu'il y a les jeux de ballon, il y a les jeux sur des damiers, etc. Et cette variété est également utile pour penser la diversité des emplois du langage. Alors tout ça, n'est-ce pas, où ça va? Parce qu'on peut explorer de façon indéfinie toute cette richesse des jeux, mais l'important, c'est de quoi ça nous libère. Alors ça nous libère justement de cette image qu'il avait dressée au début et qui n'est pas propre à Augustin, n'est-ce pas, qui est chez tous les philosophes. Et dans le cas de Wittgenstein, c'est chez les empiristes, c'est eux qu'il a dans le collimateur, à savoir... La philosophie du langage doit commencer par l'idée du signe, le signe. Alors c'est à ça qu'il oppose son histoire de boîte à outils. Si je dis ma philosophie, je vais faire une philosophie du langage, donc je commence, je me demande qu'est-ce qu'un signe. Et alors là, nous avons un développement bien connu. Alors, connaît bien en France, donc le signe, qu'est-ce que ça peut bien être? Bon, il faut qu'il y ait un signifiant, un signifié, etc. Et alors on croit avoir introduit le langage. Eh bien, si on fait ça, dit Wittgenstein, c'est comme si on se disait je vais d'abord définir l'outil. Qu'est-ce qu'un outil en général? Et puis après, après, tous les outils seront des cas particuliers de l'essence de l'outil. Mais non, il n'y a pas de définition générale intéressante de l'outil. Ce qui est intéressant, c'est la variété des outils. Donc, il faut partir de la variété des signes. Et pour avoir la variété des signes, il faut avoir la variété des jeux de langage, c'est-à-dire le mot comme tel, un mot comme tel, il faut le placer dans une question, dans un ordre. Là, on reste un peu dans les catégories grammaticales. Et puis après, il élargit, n'est-ce pas, dans raconter une histoire, faire une plaisanterie. Et même, n'est-ce pas, dans le texte qui a été lu, c'est très intéressant de voir que fabriquer une carte, fabriquer un diagramme, fabriquer une représentation, c'est du langage. C'est du langage parce que... de même, c'est comme aux échecs, n'est-ce pas ? Il y a des mouvements matériels, il y a des sons, il y a des dessins, des inscriptions, et tout ça prend du sens parce que nous avons fixé des règles pour ce genre d'inscriptions, de sons, d'objets dans nos activités les uns avec les autres.
C'est donc une conception extrêmement pratique, voire pragmatique du langage, puisqu'il parle de boîte à outils, et vous avez pris l'exemple, la comparaison entre un signe et un outil, on a une conception assez, assez constructive. Le langage se construit, nous avons des outils, des règles, il faut en faire quelque chose, mais la question qui se pose, et la question que se pose Wittgenstein, c'est celle de savoir comment produire du nouveau en langage. Si nous construisons quelque chose avec le langage, nous ne le faisons qu'à partir de mots qui nous préexistent, qui sont déjà là et qui ne sont pas d'abord les miens. Donc comment faire à partir du langage qui est indépendamment de nous à la base, puisque le langage ne nous a pas attendu pour exister, nous apprenons des mots qui ne sont pas les nôtres et des manières de parler qui ne sont pas les nôtres, comment faire pour inventer un langage qui exprime ce que je pense, puisque c'est quand même aussi le but du langage, c'est de communiquer quelque chose qui vient de moi et que j'essaie d'exprimer vers de l'extérieur. Donc comment faire pour se servir du langage de manière à l'adapter à l'utilisation que je veux en faire? Et je pose cette question à dessein puisque c'est toute la problématique de l'appropriation du langage. Est-ce que le langage a pour but et comment fait-il pour exprimer la dimension privée de mon être et des choses qui ne concernent que moi et sur lesquelles je dois mettre des mots avec des mots qui ne m'appartiennent pas, Vincent Descombes?
Oui, les mots ne m'appartiennent pas. On peut dire ça, mais à la fin, une fois que... j'ai appris ma langue, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ces mots ne m'appartiendraient pas? Alors...
Je peux me les approprier, justement, mais c'est toute la question. Comment passe-t-on, comment s'approprie-t-on un langage qui nous dépasse et qui n'a pas besoin de nous pour exister?
Ah, mais je ne dirais pas ça, n'est-ce pas? Le langage dépasse l'individu que je suis, mais il a besoin des hommes pour exister. Il a besoin d'être parlé. Non, mais en réalité, là, il y a deux choses différentes qu'il faut séparer. Il y a la question de l'idiolecte, d'une part, et puis il y a la question de l'expressivité. Alors, l'idiolecte, c'est-à-dire, n'est-ce pas, c'est le terme des linguistes pour une langue qui serait propre à un seul individu. L'idée d'une langue que parlerait une seule personne. Non pas comme le dernier des Mohicans, parce qu'il n'y aurait plus que lui à parler cette langue, n'est-ce pas? Comme les langues qu'étudiait Dumézil, là où il n'y a plus que 5 locuteurs, alors on se précipite pour les enregistrer. Non, un idiolecte, c'est-à-dire une langue privée au sens où quelqu'un aurait fabriqué tout seul, et non pas par dérivation. Évidemment, je peux me fabriquer une langue secrète. Donc, ça serait privé au sens où ça serait mon invention, mais elle serait dérivée du français, dans mon cas. Donc, ça ne serait pas une langue privée. Non, l'idiolecte auquel on s'en prend dans les recherches, c'est une langue que quelqu'un aurait fabriquée tout seul, sans le faire dans des interactions avec d'autres.
Parce que du coup, personne ne le comprendrait.
Alors, c'est ça le problème. D'après l'image augustinienne, on pourrait, n'est-ce pas, c'est ça le problème augustinien. Est-ce que ce que on obtiendrait ainsi serait un idiolecte? Eh bien, tant qu'il s'agit de nommer dalles, piliers, etc., là, on peut penser que ce sont des objets qui sont devant nous tous, et donc nous pourrions, on pourrait s'entendre sur eux. Mais la question de l'idiolecte, c'est celle d'un sujet tel que l'imagine la philosophie empiriste, qui a des expériences, des sensations, des vécus, et qui produirait sa langue à lui, n'est-ce pas, à ce sujet, par association de la sensation qu'il a à tel instant, et puis d'un signe arbitraire qu'il déciderait d'associer à cette sensation. Et donc, il aurait nommé sa sensation. Eh bien, dit Wittgenstein, ce qu'on aurait ici, c'est l'image augustinienne du langage, mais cette fois-ci, non plus dans une interaction entre les adultes et les enfants, non plus dans une interaction entre les maçons, mais dans l'interaction d'un individu avec lui-même qui, en quelque sorte, s'apprendrait à lui-même une langue qu'il serait le seul à parler. Et alors, la réponse de Wittgenstein est très directe, n'est-ce pas ? Il dit, cette langue, puisqu'il ne pourrait pas l'enseigner aux autres, il ne peut pas non plus se l'enseigner à lui-même.
Qu'en serait-il si les hommes n'extériorisaient pas leur douleur, s'ils ne gémissaient pas, ne grimaçaient pas, etc. ? Alors, on ne pourrait pas enseigner à un enfant l'emploi de l'expression « mal de dents ». Admettons que l'enfant soit un génie et que de lui-même, il invente un nom pour la sensation. Mais il ne pourrait pas, évidemment, se faire comprendre par ce mot-là. Comprend-il le nom sans pouvoir expliquer sa signification à personne ? Mais que signifie « il donne un nom à sa douleur » ? Comment s'y est-il pris pour dénommer la douleur ? Et quoi qu'il ait fait, dans quel but l'a-t-il fait ? Lorsqu'on dit « il a donné un nom à la sensation », on oublie qu'il a déjà fallu une longue préparation dans le langage pour que le simple fait de dénommer ait un sens. Et quand nous disons que quelqu'un donne un nom à la douleur, ce qui est ici préparé est la grammaire du mot « douleur ». Elle montre le poste où le nouveau mot sera placé. Vincent Descombes, la problématique du langage privé, hein, tel que nous l'avons évoqué juste avant que je lise ce texte, est justement bien exprimé dans ce texte-là sur la douleur. Donc c'est la proposition 257 des recherches philosophiques, puisque Wittgenstein y montre bien que si les hommes n'extériorisaient pas leur douleur par des gémissements, des grimaces ou ces sortes de bruits étranges qu'on a entendus, interprétés par Oscar Peterson, ces mumbles, hein, ces gémissements qui ne font pas à proprement parler sens, mais qui peuvent désigner une sensation sans doute, alors on ne pourrait pas enseigner à un enfant l'emploi de l'expression « mal dedans ». Et c'est tout l'écart là qui peut séparer une sensation du langage qui lui est censé exprimer un ressenti, mais d'une autre manière, dans un registre, un niveau d'expression qui n'est pas le même. La sensation n'est pas la même chose qu'une phrase qui exprime la sensation. Est-ce que c'est de cette manière-là, il me semble qu'on peut bien saisir le problème qui est celui du langage privé pour Wittgenstein. Comment mettre des mots sur quelque chose qui ne concerne que moi et être sûr que ce que je vais dire va exprimer aux yeux des autres, aux oreilles des autres, ce que je veux précisément dire ou exprimer.
Oui, ben, ce que vous dites, c'est tout à fait le nœud. Il y a une sorte de nœud au sens de plusieurs fils qui sont attachés ensemble dans cette question de la sensation de douleur. Il y a le problème de est-ce qu'une langue privée est possible ? Il y a le problème de comment comprend-on le langage des sensations ? Et puis, il y a ce encore derrière tout ça, ce que vous avez dit. Là, qu'est-ce qui est ma marque ? Qu'est-ce qui vient de moi ? Qu'est-ce qui est ma propre individualité dans l'expression ? Alors, tout ça se noue ici. Et si on relisait le texte que vous avez cité, là, il faudrait voir la forme que ça... c'est-à-dire... très souvent, les remarques successives dans les recherches sont des petits dialogues. Il y a deux voix. Alors, ces deux voix sont Wittgenstein. L'une et l'autre sont Wittgenstein, mais il y a Wittgenstein tel que tenté par, comme nous tous, par une certaine image. Et puis, il y a Wittgenstein examinant et critiquant ce que dit l'autre voix. Et alors là on a... une voix qui, en somme, exprime la protestation du lecteur, en un sens de Wittgenstein lui-même, de nous tous, devant cette idée que le langage est une activité commune. Elle dit, mais quand même, n'est-ce pas on prend la douleur, la sensation de douleur, voilà bien l'exemple même d'une chose qui m'arrive à moi, n'est-ce pas? C'est moi qui ai mal. Donc je sais bien que c'est moi qui ai mal, je sais de quoi je parle. Et les autres, je les informe, mais vu qu'ils ne ressentent pas ma douleur, ils ne comprennent pas le mot douleur de la même façon que moi. C'est ça l'idée que Wittgenstein va combattre, mais qui est une idée naturelle en quelque sorte. Et alors ce qui est très amusant, c'est que Wittgenstein lui-même passe, comme vous l'avez fait, de cette histoire de sensation de douleur à l'idée de ma personnalité, mon individualité, ma vie propre, n'est-ce pas ? Comment tout ça va se retrouver dans le langage ? Comme si la sensation de douleur était, en quelque sorte, le fond de moi-même. Alors, comment résiste-t-il à... Quand on lit ce genre de texte, il faut voir combien de voix il y a, et ces voix, ce sont des voix... Il y en a une qui pose des questions, alors il faut répondre aux questions. Et donc là, la stratégie, c'est de dire, n'est-ce pas, on a affaire à quelqu'un qui dit, mais quand même, on comprend douleur parce qu'on a eu mal. Si on n'avait jamais eu mal, on aurait une autre idée de la douleur. Et Wittgenstein veut déraciner ce préjugé. Il veut montrer que, très certainement, quand j'ai mal, c'est ma douleur, et elle est privée, elle est mienne. En ce sens que c'est pas contagieux, c'est pas, n'est-ce pas, c'est ma douleur. Mais ça n'a rien de ce caractère privé n'a rien de caché, de mental, de d'intérieur. Et si quand j'éternue, c'est moi qui éternue, c'est à moi que ça arrive, mais ça n'est pas mental. Et la sensation de douleur n'est pas mentale. Par ailleurs, il y a le fait de dire qu'on a mal. Et comment se fait-il que on comprend j'ai mal? Alors là, ce qu'il suggère, c'est que pour apprendre le langage de la douleur, c'est une chose d'avoir des douleurs, c'est autre chose d'avoir le langage de la douleur. Et pour apprendre le langage de la douleur, il faut avoir appris à dire « j'ai mal ». Et donc, sa suggestion dans ce paragraphe, c'est que cet apprentissage ne s'est pas fait du tout par un procédé type Augustin, c'est-à-dire associer un mot et puis un objet qui serait la douleur, mais ça s'est passé par une civilisation, une élaboration, une complication d'une réaction naturelle qui est de pousser des cris, de gémir, de grimacer. Et les phrases, là, les mots, ont une place naturelle, si on peut dire, dans des réactions pré-linguistiques qui consistent à manifester sa douleur, n'est-ce pas ? Ça fait partie de la douleur que de la manifester. L'être vivant qui souffre crie, et l'être vivant linguistique que nous sommes est capable de, sur cette racine naturelle de l'expression de la douleur, de construire un discours de la douleur.
Sauf que ce discours-là et cette façon de crier ou d'exprimer la douleur va considérablement varier selon, disons, les cultures, les communautés, les endroits où nous sommes nés et les us et coutumes que nous avons appris, qui nous ont été enseignés. Ce que je veux dire par là, c'est que Wittgenstein insiste beaucoup sur le fait que même à partir du moment où nous avons un langage en commun, ce sont ces données pré-linguistiques, comme vous dites, hein, qui peuvent être d'ailleurs d'ordre cosmologique, biologique ou culturel, qui déterminent aussi les manières dont nous allons nous exprimer. Dans le cas du mal de dents, les grimaces ne sont pas les mêmes, les grimaces ne signifient pas la même chose à un endroit ou à un autre. Et on a là tout un registre de l'expression de soi qui échappe au langage en tant que tel et qui fait que ce que Wittgenstein montre comme étant impossible, c'est peut-être une forme d'universalité du langage, et qu'il ne suffit pas de mettre des mots pour exprimer quelque chose, hein, comme il le dit lui-même, hein, quand bien même un lion saurait parler, nous ne saurions pas le comprendre. Vincent Descombes.
Alors, il y a la diversité culturelle, mais cette diversité, fondamentalement, elle est de nature langagière. Donc, ce que vous avez très justement fait remarquer, c'est que le langage et la réaction naturelle s'entremêlent, de telle sorte que dans certaines cultures, ça ne se fait pas de montrer qu'on a mal, n'est-ce pas ? Ça fait chuchote, donc il ne faut pas montrer qu'on a mal, même par des grimaces. Dans d'autres, c'est au contraire bien vu. Bon, il y a toutes ces variétés. Et puis, il y a... donc ça, c'est les cultures, les traditions, les institutions, etc. Et puis, alors, il y a ce problème du lion. Et n'est-ce pas, si le lion pouvait parler, nous ne le comprendrions pas.
Alors, c'est une proposition qu'on trouve à la fin des recherches philosophiques. C'est juste qu'il tient en une phrase.
Oui, oui. Donc, c'est très énigmatique. On a beaucoup discuté de cela. Et donc, moi, j'ai mon interprétation. J'ai mon interprétation qui, cette phrase, elle vient d'auteurs français. Dans l'éducation sentimentale de Flaubert, il y a un dîner en ville et le héros, Frédéric, là, entend c'est après la révolution de... Et donc, il y a les bourgeois effrayés de la révolution. Et je crois que c'est Monsieur Dambreuse. Enfin, il y a l'industriel riche qui est furieux des socialistes et qui cite Adolphe Thiers. Alors, Thiers, dans son livre « Qu'est-ce que la propriété ?» avait dit « Si le lion pouvait parler, il dirait « Je suis propriétaire ». Et le monde entier est pour la propriété. Et donc, vous voyez, le socialisme est inadmissible. Alors, c'est très intéressant. Si le lion pouvait parler, il dirait « Je suis propriétaire ». Et non pas « Nous ne le comprendrions pas ». Alors, est-ce que la phrase de Thiers via Flaubert est passée dans la culture autrichienne ? J'en sais rien du tout. Mais ça nous donne le contraste, à savoir que, en quelque sorte, on peut voir dans la remarque de Wittgenstein un commentaire ironique sur l'idée de Thiers, qui est que si les lions parlaient, ils seraient des bourgeois, ils parleraient comme nous. Quand nous faisons parler les lions... Nous sommes comme le fabuliste, nous les faisons parler comme des êtres humains. Ce sont des êtres humains à visage léonin, si on peut dire, qui expriment les passions, les intérêts de leur époque. Et donc, à cela, en quelque sorte, Wittgenstein oppose ceci. Ou bien le lion a sa forme de vie à lui, et donc, s'il pouvait parler, il parlerait, il serait compris par les gens qui pourraient partager cette forme de vie, donc pas par nous. De telle sorte que dire qu'il peut parler n'a pas beaucoup de sens à ce moment-là. Ou bien alors, nous sommes comme La Fontaine, n'est-ce pas ? Nous faisons parler le lion, mais ça veut dire que nous devons l'humaniser. Et le point à retenir, donc, c'est que attribuer la parole, le pouvoir de parler, la pensée à des êtres, c'est une démarche anthropomorphique. Comme dit Wittgenstein, si on veut imaginer, je ne sais pas, que la chaise a des pensées, et si on imaginait que la chaise a des pensées, à ce moment-là, pour imaginer ça, on doit lui donner un visage comme une poupée. Il faut que les paroles viennent d'une bouche, en quelque sorte. Il faut anthropomorphiser. Et donc, ça nous montre à quel point notre langage humain n'est compréhensible que dans des activités humaines.
Mais au-delà même de l'anthropomorphisme, Vincent Descombes, que cette phrase sur le lion, hein, quand bien même un lion saurait parler, nous ne pourrions le comprendre, nous donne à entendre, c'est qu'il ne suffit pas de parler le même langage pour se comprendre. Et il ne suffit pas même de parler tout court pour se comprendre que non seulement la compréhension peut se passer du langage, qu'elle est histoire de, c'est une affaire de forme de vie et non pas de langage. C'est deux formes de vie qui peuvent communiquer entre elles, qui sauront se comprendre indépendamment du fait qu'elles aient un langage commun ou non. Si nous ne pouvons pas comprendre le lion, ce n'est pas parce qu'il parle un langage différent d'une autre, nous pourrions toujours l'apprendre, mais c'est parce que sa forme de vie est absolument indépendante de la mienne et donc jamais je ne pourrai le comprendre.
Oui, oui, tout à fait. Le langage ne peut pas être isolé de la manière dont on vit et donc de l'humanité. Si on mettait tout ça en termes plus traditionnels, n'est-ce pas, si au lieu de langage vous mettez rationalité, ce qui en grec serait un peu la même chose, n'est-ce pas, l'animal rationnel, c'est l'animal parlant, c'est le logos. Donc ce logos fait partie de notre animalité. Et donc si les lions pouvaient communiquer, enfin l'idée de lion parlant, c'est l'idée d'un lion devenu compréhensible en termes humains. Et sinon, c'est comme s'il ne parlait pas, pour nous en tout cas. Cette histoire de forme de vie est effectivement fondamentale, mais la différence entre forme de vie du lion et forme de vie des humains ne doit pas être assimilée à la différence entre forme de vie d'une autre culture et de notre culture. Parce que là, précisément, il y a comme l'imagine, c'est un problème que s'est posé Wittgenstein, n'est-ce pas ? Comment un explorateur pourrait-il comprendre des gens complètement isolés, dans une langue complètement inconnue ? Eh bien, il pourrait entrer. Et en gros, la technique, ça serait d'être comme un enfant. Il faudrait interagir avec ces gens, il faudrait leur demander à manger, et à l'intérieur de ça, on apprendrait la langue.
Mais alors confronter, alors non pas deux formes de vie différentes, mais deux registres de langage différents peut donner lieu à des jeux de mots, on y revient, qui sont parfois très savoureux, comme ceux des charlots, écoutez.
Je te mets un doigt de vodka et te suce sur des mots tout bêtes.
Un désir de tendresse t'habite dans la gorge, j'ai comme un nœud.
Je sens bien ton trouble et très vite je baise ton front et tes yeux. Ah bien. Ah viens, prenons notre pied, ta terre pour une île, et laissons-nous glisser dans le confort tranquille. Oui bien, oui bien, oui bien, jouissons ensemble de l'instant heureux où l'eau sans culminer, le plaisir d'être deux.
Merci beaucoup Vincent Descombes d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, le plaisir d'être deux pour parler de Wittgenstein en l'occurrence. Alors de vous, je rappelle qu'on peut lire le complément de sujet paru aux éditions Gallimard, ainsi que le raisonnement de l'ours paru au Seuil, et dans les deux ouvrages évidemment on trouve des liens plus ou moins directs et certains très directs avec Wittgenstein. Il sera 10h50 dans 20 secondes exactement, et 10h50 comme tous les jours, c'est l'heure de retrouver le journal de la philosophie avec François Nudelman. Bonjour François.
Bonjour Adèle. Les souvenirs les plus importants sont dans notre mémoire, mais les souvenirs matériels ont aussi un rôle puissant qu'on mesure d'autant plus lorsqu'on les perd. Ils sont la chair du temps, comme le suggère le titre du livre de Belinda Cannon, paru chez Stock. Belinda Cannon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancière, essayiste, vous êtes aussi maître de conférence à l'Université de Caen, et vous publiez une sorte de journal, journal d'une perte, qui part d'un cambriolage. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui est arrivé ?
Oui, en deux mots, un jour, je suis revenue dans ma maison, celle que j'appelle ma maison des champs, donc une maison dans le Cotentin, et j'ai constaté que j'avais été cambriolée. On m'avait volé très peu de choses, mais on avait emporté deux malles dans lesquelles je tenais serrés mes journaux intimes, mes carnets laboratoires, mes photos, ma correspondance, c'est-à-dire tout mon passé qui a disparu d'un seul coup, d'un seul.
Alors, ce qui a été volé, donc ce ne sont pas seulement des choses que l'assurance peut remplacer, mais effectivement des souvenirs. Et ce vol des souvenirs, vous en faites quelque chose qui n'est pas seulement une nostalgie ou une mélancolie, mais un travail sur ce que c'est finalement que d'avoir un passé.
Oui, parce que évidemment ça m'a blessée d'une façon incroyablement puissante. Et donc, je me suis mise à réfléchir et à écrire, à écrire une espèce de journal de deuil pour essayer de comprendre, de me rendre raison à moi-même de ce qui se passait pour moi devant cette perte. Et au fond, qu'est-ce que c'était les journaux ? Qu'est-ce que c'était la mémoire ? Qu'est-ce que c'était les souvenirs ? Donc je me suis mise à interroger l'origine de ma douleur, au fond.
Et on sent que ces souvenirs perdus amènent à l'idée d'un moi qui est perdu, et même, une sorte d'hyperbole, même que tout est perdu finalement dans la vie si on n'a plus ce qui constitue ce fondement. Mais était-ce véritablement un fondement ?
Je ne dirais pas que tout était perdu. Je dirais que j'ai été amputée de ma mémoire.
Oui.
Donc c'est ça qui est perdu, c'est la mémoire. Donc en quoi c'est grave d'avoir perdu sa mémoire et qu'est-ce qu'on en fait ? À quoi elle nous sert ? Vous disiez que ce qui importe, c'est peut-être ce qui reste dans la mémoire. Mais je crois que ce qui est intéressant, en tout cas qu'il l'était pour moi, ça n'est pas seulement ce qui reste, c'est-à-dire le résultat de l'empilement des ans et des pensées au fil des ans. Ce qui est important aussi, c'est le processus. Et ce que je notais dans mes journaux, par exemple, c'est ce processus qui fait qu'on change, que ce moi change de jour en jour et se transforme. Alors le résultat du processus, je l'ai, c'est moi aujourd'hui. De même, j'ai par exemple mes livres qui sont le résultat d'un certain processus d'invention. Mais l'histoire de cette invention, l'histoire et l'histoire de la fabrication de moi-même, qui n'intéresse peut-être que moi d'ailleurs, et c'était des journaux intimes dont je parle là. Mais ça, c'était passionnant. Et cette perte-là, j'en suis non pas inconsolable, parce que justement, j'ai essayé d'être consolable, mais il y a quelque chose d'irréparablement perdu qui me...
Et on sent que le journal de l'affaire, Berthe, fait revenir aussi les pertes familiales. C'est-à-dire que vous perdez vos souvenirs, mais du coup, vous rejouez l'histoire de la perte d'un membre de la famille, d'un père. Ou... Enfin, bref, on sent que tout d'un coup, ça fait jouer psychiquement quelques deuils.
Oui, c'est ça. Je crois que ce genre de perte, quand elle est aussi importante, et là, elle était importante puisque au fond, très vite, je me suis aperçue que j'étais à la fois le sujet et l'objet du deuil. Mmh. C'est-à-dire que j'étais celle qui avait perdu et qui avait donc à négocier en elle-même cette perte, mais ceux qui avaient été perdus étaient moi-même. Cela étant, c'est vrai que des pertes profondes comme celle-là réactivent sans doute en nous la perte, la grande perte. Et du coup, on entre en mélancolie. Et je suis vraiment passée par cette phase mélancolique et le journal était destiné précisément à combattre cette mélancolie pour retrouver le désir de vivre.
Mais alors, Belinda Cannon, est-ce qu'on ne peut pas renverser l'idée en disant que ce journal est un symptôme au-delà de la perte matérielle et un symbole de ce qui de toute façon doit s'oublier, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté dans la vie à retenir tout le passé et que évidemment c'est difficile de le larguer d'un seul coup et c'est ça qui est absolument terrible, mais qu'en même temps, de toute façon, ça doit s'effacer, non ?
Mais ça s'efface. Moi, j'ai une mémoire particulièrement peu fiable, d'une part, et d'autre part, je n'ai pas le goût du passé, c'est-à-dire que je n'allais jamais voir pour l'instant dans ses carnets, dans ses lettres ou ses photos. Donc, je ne sais pas du tout, je ne serais pas...
Oui, d'ailleurs, il y a une sorte presque de superstition, parce que votre peur de l'amnésie, finalement, amène à ce que ça se réalise, en quelque sorte. Vous dites, on provoque ce qu'on redoute.
Oui, c'est une grande vérité, hélas, psychologique. Là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Mais ce qui est était important pour moi, c'était de savoir qu'il y avait quelque part conservé ce temps passé.
Oui, oui.
C'est pas que je m'y référais constamment, mais c'était quelque part, et en effet, ça me rassurait. D'autre part, je crois quand même qu'il y a une vérité qui peut ressortir à la lecture en continu, par exemple, des journaux ou de la correspondance, et ça, ça n'est pas vrai qu'on l'a en mémoire. On ne l'a pas en mémoire.
Oui, oui. Mais alors, je continue quand même à ce renversement. Est-ce qu'il n'y a pas obligation, du coup, à réinventer son passé ? Et n'est-ce pas toujours le cas ? Est-ce que, malgré la présence de ces témoignages, de la photo qui nous dit que ça, quelque chose a été, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, toujours un retravail qui fait qu'on invente ? Et là, évidemment, il y a une condamnation à l'invention.
Bien sûr, mais ça, on en est tous là. Je dirais qu'on ait des journaux ou pas et qu'on les ait perdus ou pas. Et moi, comme les autres, je ne cesse de me réinventer. Je dirais presque que c'est un de mes mots d'ordre existentiel, la réinvention de soi.
Bien sûr. Belinda Cannon, est-ce qu'on n'est pas tenté aussi des fois, à l'inverse, mais volontairement, de dire « je me débarrasse de toutes ces vieilles lettres d'amour, de toutes ces photos, etc. Fini, ça y est, on repart à neuf ».
Hélas, je ne me sentais pas lestée par elle, puisque précisément, je n'y avais pas si souvent recours.
Oui.
Donc voilà, le processus de réinvention de soi et de « chaque jour est un jour nouveau », je le vivais déjà comme ça.
Oui,
simplement,
oui.
Je dis, à un moment donné, je me disais « je suis comme l'avare qui a sa cassette, qui ne va jamais puiser dedans, mais qui sait, qui est rassuré d'avoir sa cassette ». C'était un peu comme ça pour moi.
Oui, oui. D'où la présence nécessaire, malgré tout, de ces restes alors matériels, qui sont des sortes de résidus aussi de notre vie. C'est si important que cela ?
Pour moi, ça l'était. Et puis, j'ai intitulé ce livre « La chair du temps » parce que je me suis aperçue, une fois que je les avais perdus, que précisément, ça n'était pas exactement n'importe quel papier. Parce qu'au fond, c'était des papiers ou des souvenirs, comme vous l'avez dit. Mais c'était plus que ça. C'était vraiment les traces de singularité. La mienne, dans mes journaux, mais celle des autres aussi. Je dis que quand il y avait des lettres de ma grand-mère qui est morte, c'est pour ça que j'en parle, il y avait des lettres de toutes sortes de gens, puisque je viens d'un temps où on écrivait encore des lettres. Dans ces lettres, il y avait la graphie de ma grand-mère, et c'était comme une trace charnelle d'elle-même. Et au fond, dans tous ces journaux, dans toutes ces photos et ces correspondances, il y avait des traces charnelles des êtres. Ça, c'est difficile d'avoir perdu ça. C'est vrai que ça réactive le sentiment d'une nouvelle perte.
Du coup, votre journal va-t-il dans les traces un peu de la recherche d'un temps perdu ? Va-t-il du côté aussi de sa route et de ce travail pour essayer de retrouver des choses dont les traces sont définitivement passées ? On sent que là, vous glissez aussi un petit peu dans ces pas-là.
Oui, en même temps, évidemment, je ne peux pas en un livre récupérer tant de décennies de notes et de souvenirs.
Oui.
Donc, j'ai plutôt essayé de réfléchir à ce que ça représentait, le temps, la perte, le souvenir, la mémoire, et de voir ce que ça voulait dire pour moi. C'était plutôt cela.
Alors aujourd'hui, est-ce que vous allez scanner tous vos journaux intimes ?
Mais écoutez, je ne crois pas. C'est-à-dire que je suis indécrottablement optimiste aussi, et donc je refais le pari qu'on ne me volera pas une deuxième fois.
Et vous prenez le risque de la perte et du coup de la réinvention nécessaire.
Oui, absolument.
Merci Belinda Cannon. Je rappelle le titre de votre livre, La chair du temps, paru aux éditions Stock. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie et le podcaster sur le site de franceculture.fr.
Merci François, ainsi s'achève le nouveau chemin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de notre semaine consacrée à Wittgenstein. Demain, je recevrai le philosophe Jocelyn Benoît pour vous parler des derniers écrits de Wittgenstein intitulés « De la certitude ». Une pensée toute particulière cette semaine pour Élise Maroux, dont l'absence ne doit pas induire en erreur la wittgensteinienne Élise Maroux, car sans son aide, cette semaine aurait été bien différente et sans doute, je n'en doute pas, moins bien. Les ouvrages de Wittgenstein, vous pouvez les lire, chers auditeurs, notamment aux éditions Gallimard, Recherche philosophique de la certitude, le Tractatus. C'est en tout cas avec cette édition qu'on a travaillé cette semaine. Et un merci tout particulier également à Jean-Louis Jacopin, dont la voix nous accompagne toute cette semaine.